Hell yeah, c'est la web rock station, mini times avec Classic Rock Radio. Le Bonfire, le Warrior, le Fistful of Fire notamment, parce que le Fistful of Metal c'était en trax, j'ai failli me planter, comme hier soir notamment. Allez, le Butch Rock tout de suite, le Otis Redding, le Fa Fa Fa. Clin d'œil à Butch, en tout cas, que s'il nous écoute, et puis on lui souhaite encore en tout cas un bon appétit. Tout de suite, Mister Sabouret en direct d'ici dans, allez, dans une petite minute, 213 Rock.
I keep singing them sad, sad songs. Sad songs is all I know. I keep singing them sad, sad songs.
Hell yeah, c'est la Web Rock Station, Mini Times, le Classic Rock Radio, en direct avec nous, himself, Mr. Jean-Pierre Sabouret. Bonsoir Jean-Pierre.
Eh ben bien, bonsoir Rag.
Comment vas-tu?
Écoute, j'ai connu pire, mais pas souvent, et toi?
Ouais, ça va, ça va. Alors, le Butch Rock, tu sais, c'est chaque mardi soir, depuis de nombreux mois. On a un rock journaliste, ton équivalent du côté d'Alger, et qui a aussi une énorme culture, qui est un fan des 70s, qui est un fan d'Elton John, qui aime Led Zeppelin, qui aime Black Sabbath. Il a une ouverture d'esprit, enfin, très très large, et il nous conte chaque mardi soir l'histoire d'un groupe. Et depuis ces derniers mois, nous sommes focalisés sur le cinéma, notamment John Carpenter, notamment Stanley Kubrick, etc., la planète des singes et tout, et je t'assure que ces rubriques, elles sont vraiment bien. Et puis la semaine dernière, il me dit voilà, écoute, c'est la période du mois du Ramadan, donc le jeûne, et puis donc il voulait donc rester 4 semaines, donc passer tranquillement en famille et tout, donc on a dit ok, et donc c'est pour ça Jean-Pierre, donc je t'ai appelé, je t'ai demandé si tu pouvais donc pendant 4 semaines occuper la place, et en tout cas merci à toi d'être parmi nous ce soir, et ça c'est top.
Eh bien écoute, merci pour l'invitation.
Ouais, allez, la première chose que je souhaite développer, les Beatles avec Tolkien, c'est quoi cette légende?
Alors on va commencer en fait par l'actualité, si ça t'embête pas, parce que c'est une actualité toute brûlante. C'est le gros événement en fait Beatles de l'année. Tu vas voir que ça raccroche avec le sujet. Et ben, figure-toi qu'après des années et des années où les Beatles ont refusé de sortir le film Let It Be, où moi, je l'ai vu plein de fois, j'ai pas trouvé ça évident, mais pour tous les gens, c'est la séparation des Beatles, mauvaise ambiance, enfin, un film. Et en tout cas, pour les intéressés, ça montrait trop une facette des Beatles qui n'était peut-être pas non plus la plus reluisante. Alors que pendant le tournage, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et de fait, j'ai plein de pirates justement de toutes ces sessions, parce que ça veut dire quand même des jours et des jours et des jours où du matin au soir et parfois dans la nuit, ils ont enregistré des morceaux, des reprises, testé des tas de choses. Enfin, et ils sont bien marrés de façon générale, à part quelques journées, mais comme quand t'es en famille ou avec des copains ou un truc comme ça, sur une semaine ou un mois, il va quand même y avoir une ou deux fois où tu t'engueules. Bref, donc tout ce tournage et tous ces enregistrements étaient restés dans des boîtes. Et devine quoi, il y a quelques années, Paul McCartney rencontre un mec un petit peu connu dans le cinéma qui a un petit rapport avec Tolkien. Devine qui?
George Harrison.
Non, avec le cinéma. Un mec un peu connu dans le cinéma, peut-être même le mec qui a le plus fait venir de monde dans les salles.
Écoute, je suis mauvais en devinette.
Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux et de Bilbo le Hobbit, etc. Donc, ils se rencontrent et puis McCartney lui dit « Tu sais quoi, nous, on avait pris les droits de Tolkien et on allait faire avant toi le Seigneur des Anneaux à la fin des années 60. » Ouais. Voilà, on avait déjà un début de scénario, on s'était attribué les rôles, parce qu'il faut savoir que les Beatles au cinéma, ça a démarré très tôt, ça a démarré avec Hard Day's Night, après il y a eu Help, après il y a eu Magical Mystery Tour, que j'adore, qui finalement à l'époque, ça a été un échec reluisant, la première fois que les Beatles se faisaient casser en mille morceaux par la presse, et aujourd'hui on le voit comme un film totalement visionnaire, une espèce de clip magique, enfin bon, pour le coup, oui, magique. Donc, comme quoi. Et donc, après, il y a eu effectivement le dessin animé pour lequel ils se sont très peu investis, Yellow Submarine. Et il y avait donc encore un film à faire, voilà, avec les plus gros studios à l'époque, hein, puisque ça avait quand même été des gros succès, hein, les films avec les Beatles. Et donc, Il était prévu ça, puis finalement, tout ça s'est tombé à l'eau. Ils ont fait ce qui devait être Get Back, c'est-à-dire les répétitions filmées non-stop dans un studio de cinéma. Et après, à l'issue de ces répétitions, ils partaient sur la route avec sous un nom d'emprunt. Et là, par contre, ils enregistraient l'album en live. Voilà, c'était le retour aux sources, parce que c'était quand même, au départ, les Beatles, un groupe de rock and roll et fait pour jouer dans les caves toute la nuit, quoi. Donc, ils voulaient un peu revenir à ça, c'est-à-dire retrouver une manière de jouer comme à leur début à Liverpool ou Hambourg. Et donc, Peter Jackson et McCartney sympathisent, et Peter Jackson dit, mais moi, tu sais, je suis un ultra fan des Beatles et tout, s'il vous plaît, quand est-ce que vous sortez les Tit Bits? Et là, McCartney se dit, mais attends, bouge pas. Et puis, après des tractations, etc., Peter Jackson s'est vu livrer un beau jour tous les rushs de Get Back, c'est-à-dire des heures et des heures et des journées entières de rushs. Et ça y est, il a quasiment fini. Normalement, la sortie, donc ce qui ne sera pas les Tit Bits, mais probablement sous le titre Get Back ou je ne sais quoi, mais bon, une nouvelle version, un film incroyable sur les Beatles, dans leur jus, c'est-à-dire en train de faire les cons, en train de faire des tas de reprises comme à leur début, et en train de composer quasiment en direct certains de morceaux, à la fois d'Abbey Road et de Let It Be. Voilà, donc ça sort, c'est quasi fini. Enfin, Peter Jackson a fini le montage, Ringo et McCartney sont censés l'avoir vu, et moi, si tu savais, comme j'ai hâte de d'être en septembre et de voir ça, quoi.
Oh, c'est énorme, effectivement, oui, effectivement. Ouais. Je me souviens d'une de tes phrases, Jean-Pierre.
Oui.
Que les Beatles, le premier groupe de hard rock.
En tout cas, moi, c'est. Alors après, chacun voit midi à sa porte, il y aura toujours quelqu'un pour te dire: ah, mais si on fouille bien, en 1934, on trouve. Voilà, oui. Ce que j'ai retrouvé, en tout cas, et ce que je cherchais déjà ailleurs, c'était un son assez similaire à celui du double blanc. C'est-à-dire quelque chose d'épais, de menaçant, de très étrange sur les deux tiers de l'album. Oui, il y a quelques ballades, oui, il y a des morceaux folk, mais il y a aussi des morceaux d'une puissance très électrique et puis surtout une production très très avant-gardiste, je dirais, le rock tel que depuis on l'a entendu dans tous les styles.
Ouais, voilà. Menaçant. Donc,
et voilà. Et curieusement, petit à petit, j'ai retrouvé ça dans plein de groupes, y compris dans Motorhead. Voilà.
D'accord.
Pas trompé, parce que quasiment la première fois où j'ai rencontré Lemmy, devine de qui on a parlé.
Des Beatles.
Et on a parlé des Beatles. Et lui était ultra fan, les a vus à la caverne à Liverpool, collectionnait tous leurs disques, enfin bon, et c'était pour lui le modèle absolu. Et idem, lui, essayer de retrouver la sauvagerie des Beatles période cave en fumée et rock'n'roll de voilà, on se branche et on y va à fond, quoi. Et vraiment, moi, je collectionne aussi pas mal les premiers enregistrements. Alors évidemment, avec une prise de son de l'époque, mais l'énergie qui se dégage des bandes de Hambourg ou de Liverpool, et t'as un peu ça aussi sur quelques enregistrements de, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Il y a deux doubles CD pour la BBC. Parce que la BBC aussi avait une règle d'or. Non, on passe pas les disques. Les mecs sont censés enregistrer dans les studios de la BBC des morceaux originaux ou des reprises ou des versions alternatives des morceaux. Donc, il y a des heures et des heures aussi de bandes. Tout ça en 7 ans.
Hein. Voilà. Voilà. La BBC.
En 7 ans, carrière discographique, 100 ans.
Là, tu viens de m'éclaircir sur un sujet. Parce qu'effectivement, oui. J'ai des trucs BBC pour pas mal de choses, mais la BBC, donc en fait, ils passaient pas les albums, ils demandaient au groupe de venir jouer directement, ce qui en fait, ils contraient ils avaient des versions juste pour eux, quoi, en fait.
Alors, soit c'était en direct, ouais, assez souvent, plateau, un peu comme la télé, soit c'était les studios de la BBC qui étaient parmi les meilleurs, pas aussi bien que quand même Abbey Road. Mais des assez bons studios, sauf que bon, c'était pas toujours les meilleurs ingénieurs du son, c'était le même mec qui allait enregistrer, si tu veux, le matin une chanteuse de jazz, le midi un mec qui fait la cuisine, enfin bon, donc quelquefois il y a des enregistrements assez horribles, mais il y en a d'autres fabuleux. Voilà, ça dépendait un peu du personnel qui était dans le studio, mais souvent ils ont apprécié parce que ils pouvaient aussi du coup se tester certains morceaux. Ils ont bien aimé ça pendant une période, voilà.
Ils ont reçu les où ?
Pardon ?
Ils ont reçu les où ? Pitochen ? Enfin, ils ont reçu. Pitochen est-il passé à la BBC ?
Ah bah, tout le monde est passé à la BBC.
Oui, c'est ça. Donc, mais est-ce que le studio tenait debout après le passage ?
Oui, mais peu de gens ont encore une fois rempli les tiroirs de la BBC d'autant d'enregistrements en très peu de temps que les Beatles. Voilà. C'était des staccanovistes du travail, c'était assez effrayant. Parce que oui, l'équivalent en bootleg, par exemple, de la BBC, Beatles at the Bib, eh ben c'est 12 CD.
Oh.
Voilà.
Oh la vache.
12 CD bien tassés, quoi.
Ouais. C'est un vrai trésor, c'est un véritable trésor, le grenier de la BBC, en fait. Hein.
Ah oui. Oui, ça, et les enregistrements de John Peel, qui travaillait justement notamment pour eux.
Oui, les Peel Sessions. Oui, voilà. Exact. Je m'en souviens. Oh là 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 là. Oh là, là tu vas loin là.
Bah oui, voilà. Donc c'est si tu veux, c'est aussi là que je situe le début du hard rock, c'est-à-dire un moment où les mecs, putain, ils envoyaient. Et pour l'époque, ils avaient tous les amplis, pas de pas de retour, rien du tout, quasiment pas de sono. Mais t'écoutes le son, ça envoie quoi.
Wow.
Et puis c'est des mecs, ça rigole. Enfin tu vois, il y a une bonne ambiance parce que comme tu le sais, mine de rien, au début, maintenant c'était il y a longtemps, hein, mais il y avait les gens pour et contre le hard rock, et pour ceux qui détestaient, c'était satanique, c'est des gens qui sont méchants, etc. Alors que de l'intérieur, t'es bien d'accord, c'est quand même plutôt des gens assez sympathiques qui rigolent tout le temps, quoi.
Ouais.
Même Slayer, quoi. Est-ce qu'il y a plus rigolo que Tom Araya?
Je sais que j'ai rencontré plusieurs fois. Il a toujours été toujours de très bonne humeur et toujours de bon humour aussi, effectivement, oui, parce qu'il aimait bien chambrer. C'était un bon chambreur aussi.
Ok.
Bah écoute, Jean-Pierre, merci en tout cas pour cette chronique. La semaine prochaine, tu vas nous parler de Metallica, parce qu'alors là, ça, je sais qu'il y a bon nombre de jeunes d'aujourd'hui qui veulent savoir les débuts de Metallica, les rencontres que tu as pu faire avec notamment Lars Ulrich, James, etc.
Ouais.
Tout ce que, la semaine prochaine, mardi prochain, on se fixe un rendez-vous pour parler de ça, pour parler de Metallica pendant 20 minutes et toute cette histoire-là qui t'a jusqu'à ce fameux Bercy là où le premier Bercy de Metallica où ça a été flamboyant. Bah, tu te rappelles la chronique où je crois que t'as été le seul à démonter Metallica après le show, quoi.
Ah oui, mais après, je leur en ai parlé, ils étaient assez d'accord, ils comprenaient pas. Mais effectivement, le public était fatigué, donc ils s'étaient bien donnés. Mais après, c'était trop long, et à la fin, Metallica assis devant la batterie en se demandant, bon, est-ce qu'on revient, est-ce qu'on recommence ou pas, quoi. On peut pas dire le contraire. Mais c'est vrai que les gens, de toute façon, c'était quand même aussi quand même magique, donc les gens ils avaient Metallica dans les yeux, si tu veux, oui, ils n'ont pas la même perception de toi qui les a vus déjà 15 fois.
Putain, je crois que ça va être 21 fois, quelque chose comme
c'est... bien sûr, moi aussi, si ça avait été la première fois que je les voyais, ça aurait été probablement le plus beau concert de ma vie, tu vois, et bien sûr, donc il faut toujours mesurer, mais c'était aussi un peu le rôle, je pense, d'un journaliste, et puis c'est aussi un peu... C'était pas pour être méchant, mais c'est un peu pour c'est un peu comme les lanceurs d'alerte.
Ouais.
Moi, je voyais là peut-être un début de truc inquiétant dans l'ascension de Metallica.
C'est ça.
Écoute,
garde-en pour la semaine prochaine parce que c'est super intéressant, c'est canon. Les gens qui vont nous écouter vont apprendre beaucoup de choses, surtout au niveau de l'intérieur et de la relation entre Metallica et puis la presse, etc. Et ce fameux concert à Bercy qui a marqué la fin, je pense, de la période, celle que nous aimons tous, la fin de la période à partir de Justice for All. Quoi.
La fin de la période trash, on va
trash,
dire.
Trash, ouais, c'était celle-là, quoi. Voilà. Effectivement. Ouais.
Trash, c'est pas grave.
Eh ben écoute, Jean-Pierre, merci beaucoup. On continue en musique, donc sur la Web Rock Station, Vinyl Times, le Classic Rock Radio avec Catatonia. L'album City Burials, le titre de ce soir choisi est The Winter of Our Passing sur 213 Rock. Hell yeah, sur la Web Rock Station. Ciao. The dark.
Step off the map and let it go.